Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. De l'œuf froide au menu de cette émission aujourd'hui, avec une petite parenthèse quand même sur le deuxième salon de la moto, du quad et du scooter, qui se déroulera le week-end prochain à Gaillant Expo à Douai. Guy, bonjour.
Bonjour l'ami, beaucoup d'invités aujourd'hui.
Oui, alors Guy, tu es notre spécialiste tout terrain et je vais te laisser dérouler le programme de cette émission et surtout présenter notre pilote vedette, hein, Marcel Méplon.
Oui, avant je vais t'expliquer pourquoi mon absence.
Oui.
Parce que pendant 6 mois, j'étais en train d'être à la frontière russo-polonaise.
Aïe.
À mettre des mines.
Ah oui.
Ah, ah oui. Bah oui, parce qu'ils vont arriver par là. Hein.
Ah oui, ah, ils vont arriver par là. T'es en relation directe avec le président.
6 mois
De l'Union soviétique. D'accord, ok.
Déjà, il y a des trucs en béton, déjà.
Oui.
Donc, ça passera.
Bon, bah écoute, on verra bien.
Hein. Oui, alors, comme invité, on a Marcel Méplon. Marcel Méplon qui revient du Dakar, précisément. Sinon, on va aller au Dakar. Oui, après, on va en Argentine et en France. Enfin, tu vois, le tour du monde, comme d'hab. Ensuite, Marcel, il est arrivé quand même 45 minutes en retard. Il y a une pénalité, comme au Dakar. Hein, il expliquera pourquoi.
Pourtant, j'ai lu toute son histoire là sur Facebook. Il a jamais eu autant de retard. C'est marrant. Bonjour Marcel.
Salut à tous.
Bonjour.
Merci déjà pour l'invitation. Ouais, hein, voilà. C'est super. Merci à vous. Dans des beaux locaux, on est vraiment bien.
Voilà. Ouais, on est entre motards. Voilà. Et passionné toujours de moto. Voilà. Et donc on a aussi Laurent, hein, lors du motoclub des Étangs.
Des Étangs qui va nous parler du trial à l'ancienne, ouais. Un championnat de France. D'Île-de-France, n'est-ce pas Laurent ?
Oui, salut, bonjour à tous. Donc on va vous parler du trial qui a lieu le 6 avril. À 20
6 avril.
Voilà, et puis notre invité aussi sur ce plateau radio, c'est Fabrice. Alors Fabrice, l'organisateur du salon dédié à la moto, hein, je répète, au quad et scooters, et qui aura lieu, je pense qu'il y a une... Il y a une grosse info à donner. C'est sûr qu'il aura lieu ce salon ?
Oui, c'est ça. L'info, c'est qu'il aura vraiment lieu les 15 et 16 mars à Gaillant Expo Douai.
C'était pour rire. Hein. Voilà. Donc c'est le week-end prochain. Voilà. Alors, expo, concert, animation, 500 machines exposées sur plus de 19 000 mètres carrés.
Ouais, c'est ça, vraiment la fête de la moto. Toutes les composantes vont être réunies.
Voilà, très bien. Alors, restez avec nous parce que tu n'es pas venu les mains vides, Fabrice.
C'est vrai.
Tu vas offrir aux auditeurs quelques entrées. Voilà. Hein. Gratuite, hein, forcément, puisque tu les offres.
Pas de
soucis. Ça va, voilà, très bien. Voilà, donc on a planté le décor. On retrouve donc Guy tout de suite après, en Gilou. Hein.
Alors oui, Gilou, la bible du motocross, on l'aura deux fois. La première fois, parce que les Grands Prix ont débuté en Argentine dimanche dernier. Et il y a eu deux drapeaux français sur le podium quand même.
Deux pilotes,
oui. Et ensuite, le Cross US.
Très bien.
Super Cross US.
Très bien. Voilà. Vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com, je vous répète. À la technique, on salue notre pilote d'émission, c'est Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite.
Foot 8. I said, I want you to love me.
Magazine de la moto, c'est tous les dimanches, c'est sur Campus à partir de 11h. Guy, on retrouve Gilou donc oui. Au téléphone.
Tu étais où, Gilou, pendant plus de 6 mois? Explique-moi.
Ah bah, c'était quasiment un congé sans solde. Hein, si je... Voilà, tu pensais... c'était quasiment ça.
Tu pensais que tu étais licencié, peut-être, de Kikinkout et Tupal?
J'attends. Je me suis dit, ça y est, la période d'essai de 3 ou 4 ans est terminée. J'ai échoué. Et puis finalement, non, ça va. Vous êtes de retour et ben, je suis là, quoi. Voilà.
Prêt. Donc Gilou, on va parler du début du championnat du monde de MX GP, du MX 2. Ouais. Et il y a des Français qui sont partis en Argentine, pas pour danser le tango, mais pour monter sur le podium.
Ah, clairement, ouais, on a deux Français dans la catégorie reine, c'est Maxime Renaud et je te coupe.
Maxime Renaud, c'est du haut pays, hein, c'est acheté, hein.
Ah oui, je sais.
Faut souligner ça.
Bah écoute, puis il y en a pas tant que ça finalement.
Il y en a eu.
Il y en a eu. Ouais. Mais en championnat du monde, sur le MXGP, là, Maxime Renaud a fait fort parce que il a remporté le Grand Prix. Donc ça commence bien. Il a remporté le Grand Prix, puis il avait remporté la seconde manche. Et puis devant notre second Français, Romain Fèvre, c'était l'inverse. Lui, il avait gagné la première manche et il a fait second. Donc les Français, là, vraiment, premier, deuxième et deuxième, premier, on ne peut pas faire mieux. Donc ça commence vraiment très bien. Et puis c'est un championnat qui est quand même ouvert. hein, cette année, parce que le tenant du titre, Prado, Jorge Prado, est parti aux États-Unis. On en parlera un peu plus tard. Mais voilà, on a vraiment des pilotes français qui sont au top. Et puis, le troisième, c'est Tim Gajer. Donc, à mon avis, le titre ne peut pas échapper à l'un de ces trois-là qui sont. Je vois pas hein, les poursuivants venir jouer le titre, sauf blessure, bien entendu. Malheureusement, c'est aussi un élément qu'il faut tenir compte dans les championnats maintenant de motocross. Mais franchement, Renault, Fèvre et Gagère, je pense qu'en fin d'année, on aura l'un des trois qui sera champion du monde. Je vois pas un autre. Là, il y a un tel écart. C'est simple. Il y a dès les chronos. Hein, les chronos, meilleur temps Renault devant Gagère et Fèvre. Ensuite, qualification. Premier Renault, deuxième Fèvre, troisième Gagère. Et donc, les manches, ils ont fait 1-2-3, 1-2-3. Et donc, évidemment, les trois, le podium, et c'est tous les trois. Donc, ils ont dominé leurs adversaires. Et puis, Prado parti et Erlings, qui était encore blessé. Oui, il s'est blessé l'année dernière dans une épreuve aux Pays-Bas.
Combien de fractures il peut avoir, Erlings? Parce que c'est incroyable.
Je sais pas, autant de fractures que de victoires en Grand Prix, à mon avis. Bah. C'est une espèce de record. Ah oui, non, mais c'est incroyable le nombre de fractures et enfin de blessures qu'il a. Et bon, bah, c'est. Alors moi, j'ai là-dessus quand même des idées parce que lui, il s'est blessé beaucoup, mais tous les autres. Hein, c'est très rare qu'on se retrouve avec un championnat où les pilotes, je veux dire, les 4-5 favoris, il n'y en a pas un ou deux qui se blessent dans la saison, plus ou moins grave. Hein, ils se blessent, ils sont absents un ou deux Grands Prix, ils reviennent, etc. Mais aussi bien aux États-Unis qu'on va dire en Europe, c'est le gros problème. Et là, bon, bah, je pense clairement que ça vient de la puissance des motos, de la vitesse des courses. Et il y a un moment, il faudrait prendre des décisions pour réduire, je sais pas, la cylindrée, des choses comme ça. Mais
la piste même, parce que bon.
Disons que les pistes, en fait, si tu veux, les pistes, même avec une 125, hein, les gars, ils vont aller vite. Et ce qu'il faut, c'est surtout la puissance des motos, c'est ça, parce que un pilote à l'arrêt, il peut faire un triple, c'est-à-dire passer trois bosses d'un coup, il accélère, voilà, comme s'il était à pleine vitesse, quoi. Donc c'est les puissances, c'est une telle puissance, c'est les mêmes motos en gros que les motos en MotoGP, hein. Voilà, donc c'est des je pense que elles sont trop puissantes, et puis le corps humain, ben dès l'instant qu'il y a une chute. C'est des blessures, et puis et en plus ça ratatine, si je puis dire, les champions. Outre les pilotes, pour les passionnés qui suivent ça, c'est une déception à chaque fois, hein, parce qu'on espère d'avoir les champions, de regarder de la lutte au sommet, tout ça, et puis finalement il y en a déjà un qui est blessé, un autre qui est blessé, bon voilà quoi. Et aux États-Unis c'est pareil, on en parlera plus tard, mais c'est le même problème. Bon, c'est comme ça.
Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est l'Italien Guardaglini sur Ducati, qui est quatrième, oui, quand même. La Ducati, bon, c'est la première saison.
Bah mais c'est ça qui est bien, en fait, notamment dans la catégorie MXGP, c'est que si tu regardes les six premiers du classement du Grand Prix, c'est six marques différentes. T'as Yamaha, Kawasaki, Honda, Ducati, Fantic et KTM. Donc c'est bien pour le sport, c'est bien pour l'intérêt des constructeurs. Donc là c'est le point très positif de ça. C'est aussi ça prouve aussi que les comment on appelle ça, les écuries, les factories, c'est-à-dire les pilotes d'usine, c'est eux qui vont truster les places devant, hein, parce que le meilleur des privés, après on va dire que c'est le Suisse Valentin Guillot qui se lance dans une saison sur ses propres fonds financiers. Ça va être difficile, c'est difficile, quoi. C'est vraiment un championnat du monde qui est fait pour les pilotes factory, hein. C'est clair, hein. En plus, si on regarde le calendrier, on voit que les trois derniers Grands Prix, c'est en Turquie, Chine et Australie. Suivant les places de chacun, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de pilotes qui font le déplacement dans les privés, par exemple, hein. On aura sûrement des grands prix réduits au terme de participation, hein. Entre les blessés d'un côté et puis les équipes qui ne peuvent pas y aller parce que ça coûtera trop cher, C'est le problème du motocross aussi. Hein. C'est, voilà, c'est, ouais. C'est la situation comme ça.
Dernier point. David Longo a trouvé quand même une grille complète en prenant des Argentins, des Brésiliens.
Ouais, alors ça je suis. Ouais, mais ça, je pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait, c'est de pour que la grille soit pleine, c'est de proposer une course pour les pilotes locaux, on va dire du moins les pilotes qui font les championnats d'Amérique du Sud, et du coup, ils marquent des points en venant sur ce Grand Prix, ils marquent des points pour leur propre championnat. Je pense que c'est une bonne idée. Moi j'y suis assez favorable et bon je sais que c'est du ponctuel et que c'est sur certains grands prix comme justement l'Argentine, mais par exemple il faut se souvenir que au dernier Grand Prix de France, je crois qu'on avait un seul pilote qui faisait un Français qui faisait le championnat élite qui s'est inscrit, c'était à Saint-Jean d'Angély. Lorsqu'on a un championnat élite en France, on devrait avoir pour le Grand Prix de France au moins une dizaine de pilotes français inscrits pour ça. Alors peut-être que là aussi, si on faisait, on donnait des points pour le championnat de France, peut-être que ça inciterait des pilotes à venir et à courir, parce que sinon, ils n'ont aucun intérêt à venir, ils ne gagnent pas d'argent. À la limite, voilà, et si c'est pour faire entre 20 et 25e ou 30e, bon, ben, ça, ils se déplacent pas, quoi. Ça leur coûte de l'argent et ça leur apporte rien sur le plan sportif. Alors, il faudrait peut-être y penser, c'est peut-être un petit peu mettre ce qu'ils ont mis en place pour le Grand Prix d'Argentine, de faire ça peut-être sur d'autres épreuves. Moi, je l'avais soumis à cette idée-là à David Longo. J'ai la chance de pouvoir de temps en temps dialoguer avec lui et donc de lui faire des propositions. Et puis, évidemment, il en tient compte ou pas du tout. Ouais. Mais bon. Voilà, mais alors, c'est.
Gilou, on a trois invités sur le plateau radio aujourd'hui. On a Marshall, oui. On a Laurent et Fabrice. Alors, Fabrice, c'est l'organisateur du salon de Douai. Marshall Méplon, alors lui, c'est notre vedette, c'est notre pilote vedette hein, qui a participé à son premier Dakar.
Oui.
Premier Dakar, hein, ouais, Marshall. Ouais, exact. Hein, ouais, exact. Hein, voilà, et qui a fini 47e quand même. Voilà, et Laurent, oui. du motoclub des Étangs. Est-ce que vous suivez le championnat du monde MX GP, MX 2?
Ouais, pour ma part, j'ai regardé forcément les débuts de saison. C'est le niveau là, il a encore passé d'un cran. C'est vraiment beau à voir. On avait en plus un super terrain en Argentine. Le terrain de jeu, tous les pilotes l'ont dit, l'ont chacun dit.
Tu connais les pilotes là qui ont été cités là?
Bah, Maxime Renaud, ouais, je me suis entraîné avec lui pendant au moins 3 ans. On avait le même entraîneur, Sébastien Sago, ici dans le Nord. Donc quand on faisait partie du collectif avec VBA, Maxime Renaud. Mais c'était le petit jeune Maxime. Il avait 4-5 ans de moins que nous, mais avec la 125, il nous mettait déjà
un boulevard.
il était dans nos roues quand on était avec la 450 à Lune, donc ça on savait qu'il allait avoir quelque chose, quoi, mais là, à ce point-là, c'est beau.
Ah oui, mais voilà. Il est jeune, je crois qu'il doit avoir 24-25 ans. Là,
alors, je posais la question, à Fabrice. Alors, voilà, Fabrice, tu suis le championnat du monde de... motocross MXGP.
Je vais être franc avec toi, j'ai pas le temps.
T'as pas le temps.
Donc, tu comprends.
Oui, voilà, je comprends. Tu organises le salon, d'accord. Bon, Laurent du Trial du motoclub des Étangs.
Oui.
Oui, tu suis
Je suis pas vraiment, non.
Tu connais les pilotes, Maxime Renaud, tout
je
ça.
Je connais de nom. Ouais. J'aime bien regarder. Je regarde l'enduro, tout ça.
Voilà.
Mais je suis de loin, quoi. Je suis pas passionné par ça.
Voilà, Gilou, c'est la réponse de nos invités qui sont sur le plateau.
Bah, je vais leur retourner la même chose. Moi, c'est pareil. Je ne suis plus le Dakar ni le
Trial. Ah,
tu ne
suis plus le Dakar trial. Bon, bah, dommage. Ouais.
Ah oui, non, mais je le suivais à une époque, mais là, j'ai plus le temps déjà parce que je passe, tu sais, je suis tout seul à m'occuper de mon site, hein, donc oui. je passe beaucoup de temps dessus. Et puis, les compétitions, ben, aux États-Unis, ça démarre début janvier, bon. Et puis on peut dire maintenant, ça va jusqu'au mois de novembre, quoi, à peu près.
Ouais. Pour conclure, donc, le prochain Grand Prix, c'est le 16 mars en Espagne.
Ouais, c'est le week-end prochain dans 8 jours.
Le week-end prochain.
Et puis l'autre d'après, c'est en France.
Et il sera retransmis au salon de la moto, par contre.
Ah, c'est à Douai, Gilou. Faut que tu reviennes dans le Nord. Hein.
Salon de la moto des Hauts-de-France.
Ouais. Ah oui.
Voilà.
Bon, bah, moi, je vais aller pour information. Salon, là, pour j'irai dans mon salon, moi.
Le week-end prochain, ouais. Ah, tu seras dans ton salon.
Je serai dans mon salon tout court.
Écoute, on va se quitter parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire durant cette émission. Mais nous, on va se retrouver
Après la musique.
Après la
musique. Non, non parce que. Non, non. Gilou part.
Oui, oui je sais, absent. Je sais, il a une contrainte. Voilà, bon, on va se retrouver après la musique.
Dans une heure, je pars. Hein.
Oui, d'accord, ok, on va se retrouver après la musique.
D'accord. Ok.
Bon, Guy, on retrouve Gilou cette fois-ci pour parler du
super motocross US. Gilou, oui. Est-ce que oui. Donald Trump n'a pas changé quelque chose
Pour l'instant, non. Mais tu sais, alors, tu veux
plus
entendre avec ça.
Il y a
mais...
sur la piste.
Ouais. Non, mais tu sais que son élection, il y a quand même des choses qui peuvent... il peut y avoir un effet collatéral par rapport à ça, parce qu'il met tellement il veut tellement changer de choses par rapport aux autres pays, etc., de mettre des TVA et tout, ce qui fait que, par exemple, les autres pays vont dépenser, on l'a entendu en France, c'est juste un petit encart que je fais, hein. On a entendu, par exemple, que le président Macron allait avec les pays européens de trouver des milliards et des milliards et des milliards pour remettre des armes un peu partout, bref. Eh bien, et qu'il faut faire des économies. Eh bien, par exemple, sur les régions, on peut très bien avoir maintenant des budgets qui ne sont plus attribués pour les compétitions.
En effet.
Et on a vu, par exemple, en Indonésie, bon, c'est pas par rapport à Trump, en Indonésie, le Grand Prix a été annulé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un autre... un autre, qu'on appelle ça, un gouverneur qui était dans la région. Le précédent, il était pour, il soutenait le motocross. Il y a eu un changement. Le nouveau, hop, il soutient pas le motocross. Donc, pas de budget, pas de subvention. Eh bien, pas de motocross, pas de grand prix. Et c'est comme ça que ça évolue. Et quand on voit, par exemple, la fragilité du championnat du monde qui organise de plus en plus sur des circuits artificiels, bah parce que faut trouver des investisseurs, des promoteurs privés souvent, parce que les États petit à petit se désengagent des organisations. Et c'est voilà, c'est
ah ouais, ouais, non mais c'est sûr qu'on va le payer.
Ça c'est voilà, c'est pour le motocross, c'est là aussi c'est pas une bonne chose. Enfin ouais. Bon, il y a des choses plus graves. J'espère que ça va s'arranger. Mais bon, voilà.
Voilà.
Donc le championnat américain.
Oui.
Le Supercross.
Le Supercross.
Ouais. Alors, donc on a, comme je le dis deux secondes, hein, on a trois championnats qui se déroulent en même temps, parce que les 250 cm3 sont répartis entre deux côtes, la côte est et la côte ouest. Mmh. Donc là, c'est pour les 250, et donc c'est pas le même plateau de pilotes, hein, c'est des pilotes différents. Il y a 10 courses pour chaque côte, et le championnat principal, c'est les 450, le championnat Supercross 450 cm3, et là, ça fait 17 épreuves, qui se terminent au mois de mai. Voilà. Et ce championnat, ben, il a commencé avec malheureusement rapidement des blessés, notamment le tenant du titre, hein, Jet Lawrence qui s'est blessé, son frère Hunter Lawrence qui s'est blessé, le Tomac qui faisait sa dernière saison, qui est Tomac, c'est la référence, c'est le ouais. Voilà, c'est la, déjà il est déjà dans la légende, malheureusement il s'est blessé aussi. Et puis, j'en parlais tout à l'heure de Prado, qui est venu, donc champion du monde en titre du MXGP, qui est venu aux États-Unis pour se lancer dans la carrière américaine et qui
l'espagnol,
s'est blessé
hein,
également.
L'espagnol.
Qu'est-ce que j'ai dit, américain ?
Non.
Non, oui, tout à fait, l'espagnol, et qui se lance dans les championnats américains. Et malheureusement, il s'est blessé également. Donc voilà, encore quatre pilotes essentiels pour ce championnat qui sont blessés. Et a priori, Tomac reviendrait quelques courses avant la fin du championnat de Supercross pour se mettre en forme, parce qu'après, il va y avoir le championnat de motocross américain qui démarre fin mai. Et donc, ils vont tous revenir pour ce championnat américain de motocross. Pour l'instant, on est au Supercross. Alors, ben voilà, je t'écoute, Guy, que veux-tu savoir ?
Eh bien, au niveau de Tom Vial, hein, le champion du monde, il est parti aussi aux USA. Lui, il roule, il s'est blessé, je crois, non ? Non, il ne s'est pas blessé. Mais il avait gagné une épreuve. Hein.
Non, il est très bien. Il est actuellement deuxième du championnat et il est en bagarre avec Max Anstey. Il est court sur la côte est, Tom Vial. Hein.
D'accord.
Donc, ma foi, il est là pour jouer le titre. Hein. Je rappelle qu'il est champion en titre. Hein. C'est lui qui avait gagné le titre l'année dernière. C'est sa deuxième saison pleine. Donc, on peut penser que Tom va nous faire une fin de championnat. Et puis, moi, j'ai confiance en lui. Max Anstey. Il est en fait, c'est un championnat qui a été un petit peu décapité aussi, hein, parce que là aussi il y a eu des blessés pas mal. Il y a Shant Imas qui est un très jeune pilote, un très bon pilote et qui roule actuellement blessé. On a Levi Kitchen qui devait faire la côte ouest, qui n'était pas en forme, du coup il n'a pas fait la côte ouest, il est passé sur l'est et il s'est blessé, il ne reviendra pas là non plus. Anstey, Vial, Imas, voilà les pilotes qui peuvent faire quelque chose. Alors ce week-end, on a une épreuve 250 qui va être intéressante, c'est à Indianapolis, et c'est ce qu'on appelle le Showdown. Alors le Showdown, c'est-à-dire que les deux côtes sont réunies,
ah ouais.
Est et ouest, et donc les deux plateaux sont réunis. En général, ça fait des courses intéressantes, parce que là, on va retrouver donc les pilotes est et donc ouest. Et ouest, c'est notamment Nadigan, qui est la nouvelle merveille, un pilote au charisme assez fort, qui domine le championnat ouest. Il est là pour... donc on va voir comment ça se passe, la confrontation avec l'Est. Et puis là aussi, à l'Ouest, on a des pilotes comme Julien Baumer ou Shoshimoda, qui roule encore lui aussi blessé, qui vont courir pour la gagne. Et ça devrait faire de belles courses, hein, pour le 250. Et puis en 450, donc on retrouve ben, les pilotes, les survivants, j'allais dire. Donc, notamment Cooper Webb, qui est en tête du championnat. Très 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 fort sur les dernières courses, hein, parce que les six dernières courses,
tu parles d'Indianapolis, hein,
en 450, c'est ce week-end. Et donc Cooper Webb va être leader devant Chase Sexton, qui aurait pu être leader, mais Chase Sexton, il fait des erreurs, des choses un petit peu bêtes. Il avait des courses gagnées parfois, et un ou deux tours de l'arrivée, il fait une faute et il perd la course bêtement pour des erreurs où il fait toute seule. Et puis voilà, on a Ken Roczen en troisième position. Bah, je dirais que c'est les piliers de ce championnat, hein, dès l'instant que les autres sont absents. Voilà, on n'a plus de pilotes en dehors de Dylan Ferrandis qui court dans cette catégorie et qui a du mal. Hein,
il y a l'âge et puis.
Voilà, donc il faut le reconnaître en fin de carrière aussi. Mais bon, il est plus entre les positions de 10, 15 de sur chaque épreuve. Plutôt que il n'arrive pas à aller pour jouer la gagne ou le podium, gagne, c'est ça qui est difficile. Alors qu'il avait été champion américain dans le passé de cross, donc c'est dommage, quoi. Mais voilà, il ne faut pas durer tout le temps et c'est comme ça. Donc là, si tu veux, pour moi, le titre va se jouer certainement entre Webb et Sexton. Roczen a gagné la dernière course à Daytona, mais je ne sais pas. Roczen, on a l'habitude qu'il. Les deuxièmes parties de championnat, parce que là on arrive à la moitié, les deuxièmes parties de championnat, il y a toujours une petite baisse de régime qui le font perdre de l'intensité dans les résultats. Alors on va voir comment ça se passe cette année, mais de toute façon le titre c'est Webb, Cooper Webb ou Chase Sexton certainement, éventuellement Ken Roczen. Après, derrière, je pense pas que les autres puissent remonter, et même si on a un retour par exemple de Tomac, ça sera uniquement pour jouer pour se préparer pour le motocross, hein, ce que je disais tout à l'heure. Éventuellement, s'il est vraiment en forme, peut-être de gagner une course, parce qu'il en avait gagné une cette année. Mais voilà, les autres pilotes ne peuvent pas jouer le titre. Hein. Ça sera donc Webb, Sexton ou Roczen pour le titre.
On parlait que y a des pilotes français et puis Ken Roczen, il est allemand.
Oui, allemand, oui.
Les pilotes américains, est-ce qu'ils les accueillent
Ken Roczen, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est là-bas, lui. Hein. Et en fait, il est presque plus américain qu'un américain. Ouais, parce que déjà, il sait communiquer sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très proche du public. Il est. Quelque part, Jet Lawrence, c'est un Australien, et c'est pareil, hein, des pilotes qui savent communiquer avec le public, donc ils ont une popularité dingue, et puis ils sont suivis sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est des pilotes modernes, hein, c'est des pilotes de notre époque. C'est vrai que je sais pas comment ça serait passé à l'époque des deux Costers et toi, mais... Voilà, c'est les jeunes, c'est les pilotes actuels, et ça marche à fond là-dessus. Et puis après, t'as des pilotes beaucoup plus réservés, comme Cooper Webb, par exemple, qui, il est pas du tout dans le même trip à faire des vidéos tous les quatre matins et des choses comme ça, quoi. Ils sont très bien accueillis aux États-Unis, puis je pense que les Américains aiment quand c'est un trailer qui gagne, hein. Mais dès l'instant que c'est un pilote qui fait des belles choses, qui communique pas mal, il est apprécié, il est aimé, ben voilà, les fans sont là, et puis il y a du monde, hein, ça marche bien le Supercross.
Et le Supercross fête ses 50 ans hein, cette année. Hein.
Ouais, c'est ce que j'ai regardé, je crois même que le championnat du monde, ça doit être la 69e année, parce que ça a commencé en 57, pour les Grands Prix, donc avant c'était l'Europe, donc championnat du monde 57 le premier. On est en 25, ça doit faire 69 ans, je pense. D'accord. Que ça existe, ouais. L'année prochaine, c'est 70 ans pour 2026.
Voilà. Tu parlais des Belges, Roger De Coster ou Joël Robert, Berg, le Suédois.
Le Suédois, ouais.
Ils venaient au début aux USA pour apprendre les pilotes américains, mais ils ont vite retourné dans leur pays.
Disons que c'était la série Transama qui existait, qui était en fin de championnat, après les championnats du monde. Mais il faut voir aussi qu'à l'époque... on avait 10, 12 grands prix en championnat du monde. Aujourd'hui, on en a le double. Voilà, déjà, ça limite. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tous ces championnats comme aux États-Unis, c'était pas aussi structuré. Et donc, ils ont appris, mais ils ont appris assez rapidement. Et ils ont créé le Supercross. Pratiquement sans même se douter qu'ils créent le Supercross, parce qu'en fait les Américains, ils ont vu que le motocross était spectaculaire, ils disent bon ben, on va mettre ça dans un stade, des obstacles, les gens seront assis dans les tribunes, ils vont manger du popcorn, boire du Coca-Cola et voilà, et c'est parti. Et en fait ils ont créé à ce moment-là le Supercross.
Je te donne rendez-vous le mois prochain
Et on fera le point. Entre-temps on aura vécu le Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély
en plus
15 jours.
Ok. Allez, Gilou.
Allez, bonne émission à tous. Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.
Magazine de la moto tous les dimanches sur campus à partir de 11h. Guy, donc honneur aujourd'hui à notre pilote vedette, hein, Marshall Méplon, qui est sur ce plateau radio, juste à côté de toi. Là.
En effet, Marshall a fait le Dakar cette année. Alors Marshall, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement.
Ouais, bah moi c'est
du ton coup... âge, ouais. Combien tu pèses,
marié, pas marié, des enfants, tu travailles, t'es au chômage.
Sa copine en Espagne aussi. Alors voilà.
C'est ça. Voilà, voilà. Pour faire dans les grandes lignes, j'ai 31 ans, donc je suis un gars de la région. J'habite entre Boulogne et Saint-Omer. Je suis plutôt de la Côte d'Opale. La passion pour la moto, forcément, ça, je suis né dedans avec mon papa qui a fait 18 touquets, donc qui m'a forcément donné le virus assez vite.
Ah, il a fait 18 touquets. Ton père, il a. Ah oui.
Ouais. Ah alors oui. Pas tous finis, hein, parce qu'il y a toujours des aléas, oui, mais sûr, oui. Il m'a un peu transmis le virus. Et puis voilà, dans la vie de tous les jours, je suis dans la charcuterie, j'ai une société avec des associés de produits régionaux qu'on distribue dans la région. Et à côté de ça, bah forcément, la passion de la moto, je suis un touche-à-tout. Donc, et un petit peu autodidacte aussi sur certaines pratiques de la moto. J'étais spécialisé dans les courses de sable, donc j'ai eu une période où j'ai eu la chance de faire que ça, où on va dire que j'étais loin d'être un pilote professionnel comme on peut l'entendre. Par contre, je me suis consacré à mon sport pendant 5 ans, à donner le meilleur de moi-même et à faire des courses de sable pour aller chercher. L'objectif, c'était d'aller chercher un podium, voire un top 5 au touquet, chose que j'étais en passe de faire en 2015, où je crois que j'étais 5e, et dans le dernier tour, malheureusement, la moto m'a lâché. Mais j'ai vécu des années où avec des très bons scores, des top 10 sur des courses de sable de renom. Donc, top.
C'est un sacerdoce, ta carrière, hein.
Comment ?
C'est un sacerdoce.
Quoi. Ouais.
C'est un peu comme si tu rentres en religion, hein, dans les ordres. Je sais pas, depuis 3 ans, à 3 ans, tu montes sur une moto.
Ouais.
Et puis depuis...
J'ai commencé en Ufolep, en école de conduite, sur les terrains de la région, à Vingles, à Arles. Enfin, j'ai écumé vraiment tous les terrains avec mon père. 85 cm3, je deviens champion Ufolep en 85. Après, je passe tout de suite en 2,5-4 temps, parce que le 125, je roulais chez Honda à l'époque, et il venait d'arrêter le 2 temps. Donc après, championnat d'Europe de motocross en Imba. Ça, c'était vraiment une super expérience, où j'ai fait les terrains en Italie, à Mantova, rouler sur des terrains de Grand Prix. Vraiment génial, avec des mecs qui faisaient du Grand Prix. Donc là, j'ai pris des pilés, on va dire, que début de championnat, je ramasse beaucoup. Au Danemark, je crois, la première, j'arrive, je me demande ce que je fais là. Je fais 31e sur 35 pilotes. Je dis, bon, c'est pas pour moi. Et au fur et à mesure de la saison, je remonte pour finir 10e en Angleterre sur un terrain vraiment pas facile. Donc c'était des expériences qui m'ont après servi pour les courses de sable, pour me lancer et me dire, bon, bah voilà, une fois que j'ai eu. 18-19 ans, je me dis qu'il faut se concentrer dans quelque chose, s'y mettre à fond. Et le sable, en étant du coin à 40 minutes de l'une plage, c'était un peu la voie.
Il n'y a que ça que tu préfères, le sable ?
Ouais, honnêtement, pour avoir fait énormément de choses, de l'enduro, du cross, du sable, maintenant du rallye, les courses de sable, c'est... Enfin, les courses de sable, c'est ce qui m'a
Les courses de sable, oui, quand on parle de l'une plage ou...
La surface en elle-même...
Ouais. Pourtant, c'est compliqué, hein, le sable.
Mais alors quand tu bosses là-dedans et que il y a des acquis qui viennent, des techniques qui viennent, ça devient plus facile. Pour moi aujourd'hui, faire un touquet 3 heures et rouler là-dedans, c'est plus facile pour moi que d'aller faire quasiment ce que j'ai fait là, quoi. C'est sûr, c'est rien à voir, mais on développe des techniques et s'entraîner dans le sable, c'est très dur, hein. L'une plage dans l'hiver, le froid, il y a rien qui est facile. Donc je pense que ça forge le mental. Et c'est aussi plutôt ce qui m'a permis d'aller au bout de ce Dakar.
Alors j'ai vu sur le Facebook, hein, les punitions ont parfois du bon, hein. Marshall, c'est quand tes parents t'empêchaient d'aller rouler à cause de mauvaises notes à l'école que tu t'es mis à regarder des vidéos du Dakar et fasciné par Peter Hansel. Ouais. Et tu t'es mis à rêver d'être un jour au départ.
C'est ça, je regardais ça avec un œil d'enfant, hein, voilà, je pense que comme tout motard ici regarde ce Dakar pendant 15 jours et moi j'étais focus dessus. Je me disais, tiens, mais c'est un truc de fou ce qu'ils font. Alors ça se passait en Afrique, après j'ai regardé, je me suis intéressé quand c'était aussi en Argentine, mais j'avais ces images de désert et de surtout d'évasion, de pouvoir dire, mais c'est génial ce qu'ils font. Je me rendais pas compte de l'engagement que c'était, parce qu'on se dit, voilà, c'est ouais, le Dakar c'est 15 jours, c'est top, tout le monde dit c'est un rêve, les images sont magnifiques.
Parce qu'après tu racontes ce qui s'est passé là, il y a un mois et demi là. Hein.
Et la réalité, alors après, c'est énorme, hein, franchement, cette
course. Il faut se lever à 4h du matin pour faire une étape de liaison. Hein.
Carrément, et tout ça on n'en parle pas. Voilà, ouais. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vécu, je le retiendrai je pense toute ma vie, mais il y a des choses La télé nous donne des images fascinantes. L'envers du décor, quand on est pilote, bah voilà, faut gérer déjà ces deux ans de préparation, c'est de la recherche de partenaires, de préparation physique, de préparation mentale, d'organisation. C'est pas donné à tout le monde. Avec du travail, oui.
Préparation physique aussi.
Voilà, oui, énormément. Oui. C'est 5-6 séances de sport par semaine. Se lever à 5 heures pour s'entraîner, à se lever tôt, aller faire son sport.
Et aller au boulot.
Aller au boulot après, donc ouais. Tout ça. Faut être armé et ce que j'ai vécu là-bas, heureusement j'étais super très bien préparé, j'ai été guidé et j'ai pas du tout souffert physiquement, mentalement je pense que j'étais destiné, j'étais vraiment prêt à aller au bout, donc ça l'a fait.
Oui, alors Guy, il faut que tu parles en micro.
Tu termines 47e sur 80 pilotes classés, on est bien ça, et à 18h56min 41s du premier, c'est déjà pas mal.
Ouais, alors les écarts ils paraissent comme ça, 18h c'est énorme. Pour moi, je comprenais pas hein, parce que tous les jours je passais la ligne d'arrivée et je voyais mon temps et je voyais que je finissais environ entre 1h et 1h30 du premier. Mais il faut savoir que devant c'est un autre monde, c'est des extraterrestres, les mecs ils font que ça, c'est leur boulot. Ça roule à des vitesses moyennes de 100 km/h quand moi je suis à des moyennes de 60-70 et pourtant. Je pensais que ça va rouler en moto, mais là j'ai redécouvert que c'est une discipline à part, vraiment.
Et tu as des contacts avec Adrien Van Beuren ?
Ouais, donc Adrien, ouais. C'était mon parrain de l'aventure, ouais. qui m'a du coup aidé, des Benjamin Melo aussi qui m'ont énormément aidé, son préparateur physique. Je me suis entouré, j'ai été pioché à droite, à gauche, des personnes qui ont déjà fait des Hervé Dier dans la région, qui connaissent cette course, qui ont donné des tips, on va dire, et qui m'ont fait gagner mais quasiment 2-3 ans d'expérience.
Tu connais bien Van der Rijn.
Ouais.
Bon, à chaque fois, il fait un podium.
Guy, il faut que tu parles en micro.
Et est-ce que, par exemple, il peut gagner? Parce que
ah ouais,
ça roule quand même devant.
Il a toutes les armes pour. Après, aujourd'hui, le rallye, c'est ce que j'ai remarqué pour les pilotes de devant, pas pour nous, qui, moi, je suis dans le pack du milieu, dans le premier, allez, à la fin du premier tiers, on va dire. Mais pour eux devant, c'est que de la stratégie. Ils roulent tous très vite. Ça prend des vitesses à 160, c'est hallucinant. Par contre, ils ont énormément de stratégie. Hein. Sanders, aujourd'hui, son Dakar, il l'a construit dès le prologue et dès l'étape. On a eu une étape 48 heures et marathon, elles étaient décisives. Et il l'a construit à ce moment-là parce qu'il a ralenti exprès pour ne pas partir devant sur les étapes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que ça peut frustrer, je pense, à Adrien qui donne tout. Il est sportif et dans les courses de sable, on a eu l'habitude de ça. Tandis que là, aujourd'hui, c'est de la gestion, il y a des team managers qui disent ralentis à ce moment-là pour gagner le lendemain. Il vit pas la course de la même façon.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il a fait la gueule à un moment, il a dit je comprends pas les règlements.
Il y a un autre rallye, l'Africo Race,
ouais. Hein,
et ça te branchait pas?
Si, mais je voulais cocher la case du Dakar aujourd'hui, c'est une entité.
C'est vraiment le niveau. Bah, le Dakar, c'est le niveau au-dessus.
Okay, c'est ça. Hein. C'est ouais. Vraiment très professionnel, très, très cadré. C'est vraiment compétition. Parce que on était 140 pilotes au départ, on n'était plus que 89 à l'arrivée. C'est hyper dur, c'est mental, c'est compliqué. On passe dans des paysages, par contre, c'est de la folie. J'ai des images dans la tête, on se fait des copains pour la vie. C'est énorme. Mais. Le Dakar, ouais, c'est plus pour l'entité de la chose. Maintenant, à aujourd'hui, avec le recul, des courses de championnat du monde, je veux plus en faire. C'est beaucoup, beaucoup d'engagement. Je préférais, bizarrement, quand j'ai fait mes premiers rallyes, c'était en Espagne, en Grèce. C'était des rallyes techniques, beaucoup capés sur la navigation. Et bizarrement, quand je fais le bilan de tous les rallyes que j'ai fait, bizarrement, c'est pas le Dakar qui en est revenu dans mes meilleurs souvenirs.
C'est le Maroc ? Non.
Même pas. C'est ces petits rallyes-là, oui. Espagne et Grèce qui m'ont. J'ai adoré. J'ai adoré le côté technique plus que le côté vitesse.
Tu parlais des sponsors, etc. Le coût d'un Dakar, c'est combien?
Ah, c'est souvent la question qu'on me pose.
Tout compris, hein. Parce que déjà, l'inscription, c'est pas gratos.
Tout compris, et si je peux le détailler en trois phases, déjà, aujourd'hui, pour faire un Dakar, il faut passer une épreuve de qualification. Donc, et une épreuve de championnat du monde. Il faut faire un rallye du Maroc. Ou un rallye en Argentine qui est inscrit au championnat du monde. Ce rallye-là, d'entrée, un rallye en dessous de 10 000 euros, c'est compliqué à le réaliser dans des bonnes conditions. Donc il faut déjà mettre ça. La moto, la KTM, la 450 rallye, moi que j'ai choisi pour être safe, on va dire, c'est déjà une moto qui vaut 38 000 euros, je crois, TTC. L'inscription au Dakar, 20 000. Donc c'est une grosse enveloppe. Il y a toute la logistique à côté, une équipe d'assistance, un mécano. C'est une enveloppe entre au bas mot entre 80 et 100 000 euros en moto.
En moto.
Pour le faire avec une, moi c'est ce que ça m'a... pour faire avec une assistance. Aujourd'hui en balle moto, on va réduire de 20-25 000 euros, mais ouais, ça reste des budgets très très.
Alors, c'est grand. Là j'ai une page hein, le 17 janvier hein, pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est hein, comme le Dakar. Hein, c'est voilà demain réveil prévu à 4 heures pour un départ à 5h30. 500 km de liaison.
Exact.
Alors, la liaison, c'est de rendre de où tu dors à l'endroit où va se passer la spéciale. Hein.
C'est ça.
Et là, c'est 116 km de spéciale. Donc là, c'est à Donf.
C'est ça.
C'est à Donf.
C'était typé moto.
Donc 500 bornes. Tu te lèves à 4 heures. 5h30, t'es parti. Il y a Fabrice qui en dit, je fais non, c'est pas possible. et tu te pointes après pour faire cette fameuse spéciale. Hein. Mais et tu dis, oh, quelle chance, j'ai hâte avec. Parce que c'est du sable au programme. Oui, parce que tu t'es dit en Arabie Saoudite, là-bas, il y a beaucoup de caillasses.
Ouais, ouais.
Et ça, apparemment, ça t'a pas plu du tout.
Non, mais il m'est arrivé une mésaventure et je l'ai pas raconté à tout le monde parce que sur mon Dakar, j'en ai pas eu beaucoup. Mais celle-là, elle était quand même pas mal. Sur les 116 km, on fait le refueling des motos. Et je vois l'étape, je sais que c'est du sable, c'est 116 km, on va mettre allez, une heure et demie parce que je sais que ça va aller bien. Et je fais une stratégie, mais à la con, de dire bah, je vais pas mettre de l'essence complètement dans tous mes réservoirs. J'ai 33 litres d'essence sur la moto que je peux embarquer. Je sais que pour une heure et demie, j'ai pas besoin de tout remplir. Donc je remplis les 15 à l'arrière. Et à l'avant, je me dis bah, je vais mettre que 5 au lieu des 15 parce que normalement ça devrait le faire. Et là, c'était des dunes hyper molles. Et en plus, j'étais vraiment à Donf, donc j'en ai mis. Et au bout de 80 km, la pompe, les réservoirs arrière vidés. La moto, elle me met le logo rouge, ouais. Switché sur pour basculer sur le réservoir avant. Sauf que là, dans ma tête, je me dis, mince, à l'avant, j'ai que 5 litres. Il me reste quasiment 30-40 km. Je ne vais jamais ça passe. Donc là, je commence à en rendre, mais c'était déjà trop tard.
Ouais.
Et pendant 20 km, là, j'étais en panique totale. J'ai dit, mon Dakar, il va s'arrêter là. Il n'y a personne qui va m'aider pour me dépanner parce que là, l'essence, c'est rare dans le désert. Et à 10 km de l'arrivée, je vois un petit 4x4 d'anglais qui était là-bas dans le sable, à 100 mètres de la piste, et j'y vais. Je me dis, j'ai pas le choix, on va siphonner le 4x4, ou alors peut-être qu'ils ont quelque chose. Et coup de bol, le mec il me dit, qu'est-ce que t'as besoin ? Et il me sort un petit jerrycan d'essence en plein dans le désert.
C'était de l'essence ?
Ouais, ah heureusement. Oui. Mais là, j'ai dit, bah, c'est le destin, ça veut aller au bout.
Bon. Et si c'était une camionnette électrique ?
Écoute, là, c'était un peu compliqué. Ouais. Bon, bah écoute, voilà, on va. T'as vu, regarde, tu vois, il est prêt. On va devoir passer un morceau de musique, hein, parce que.
Tu parlais tout à l'heure de Hervé Dirtz, hein, qui avait participé au.
Faut que tu parles en micro, Guy.
Au Dakar, avec une friterie.
Ouais,
à l'époque. Alors, est-ce que toi, tu n'es pas parti avec une camionnette épicerie pour apporter du pot de chevelèche, du pâté, du jambon pour distribuer?
Ah, dans le pays, c'est un peu compliqué hein, là-bas.
Parce que tu as une clientèle potentielle là-bas.
ils n'ont pas trop aimé. Non, on a fait super attention à ça. Je suis parti avec des Nordistes, je suis parti avec Simon et Antoine Vitz, deux gars de la région, l'un qui le faisait en voiture, l'autre en camion, et moi en moto. Donc on a quand même sorti les patates pour faire une petite frite à la journée de repos, c'était sympa.
Bon, tu restes avec nous, Marshall, parce que l'émission n'est pas terminée. Parce qu'on a encore Fabrice et puis Laurent aussi.
Dernière question, Dakar 2026 ?
Non, pas de Dakar en 2026.
Non, en voiture, j'ai vu.
Ah, alors.
Plutôt en voiture.
S'il y a un poste.
En passager ou au volant.
C'est ça, les deux me vont.
Bon, bah écoute, on va essayer d'aller très vite après dans l'émission. Voilà, on passe à un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Black drape, I polished up my Bonneville to make those girlies gay. life's miracles. I have my fate in my hands. I see my colors before me. I am the outlaw man. I'm your outlaw man. Yeah. The outlaw man.
Voilà, c'est la parenthèse de cette émission, parce que ça n'a rien à voir avec le off-road ou le tout-terrain. Fabrice, rebonjour.
Bonjour, Lamiche.
Alors, Fabrice, tu es qui ? Explique-nous ce que tu fais.
Fabrice, 25 ans. Non,
non pas 25 ans.
Je suis l'organisateur du salon des Hauts-de-France, de la moto des Hauts-de-France, qui a connu un très beau succès l'année dernière. Donc, on réédite, on va dire, l'opération cette année, en améliorant beaucoup de choses, notamment la billetterie, la restauration, beaucoup plus de spectacles. On a des expos vraiment superbes cette année. Donc, je pense que ça va être une belle réussite si la météo, a priori, qui devrait être favorable, nous gâte comme l'année dernière.
Voilà, et puis donc il y a, oui, c'est donc de 10, 500 machines d'exposées. Il y a vraiment 500 machines ?
Ouais, il y a 500 machines exposées. Il y a 40 marques présentes. Donc je dirais que globalement en France, mis à part Lyon, on peut dire qu'on est quasiment le deuxième salon français. Donc une belle opportunité au nord de Paris. Et puis c'est un salon familial. Je veux dire, l'année dernière, on a accueilli notre grande surprise à peu près 30 000 personnes. Donc on espère rééditer cette année. Il y a toujours une moto à gagner, quand même d'une valeur de 12 000 euros, donc c'est plutôt
sympa.
Alors
j'ai noté, il y a une moto à gagner, il y a un permis moto à gagner et il y a un équipement complet aussi à gagner.
Un permis moto ou une formation moto pour ceux qui ont le permis. Et puis il y a cette année aussi pas mal de lots qui vont être offerts pendant le salon. Donc des lots surprises qui sont également plutôt sympathiques.
Faut préciser, la Miche, que parmi les motos...
Salut, en fait, Luc.
Salut. Je passais par là, j'ai vu la lumière.
Je vais tu passer.
Je suis rentré.
Tu voulais absolument poser des questions à Fabrice.
Non, mais faut dire que la moto a gagné. En fait, il y en a plusieurs. Et celui qui est le vainqueur, enfin celui qui a... C'est un tirage au sort, je crois.
Le concept est génial parce qu'en fait, on a entre 15 et 20 motos qui sont à gagner. Enfin, pas 15 ou 20 motos.
Non,
mais la personne choisit parmi 15 ou 20 machines.
C'est sympa, quand même.
Tirage au sort le dimanche à 17h30. Ouais.
À partir du billet, c'est ça, du billet d'entrée.
À partir du billet d'entrée payant, je le précise, mais les gens peuvent, donc les gens qui viennent avec des invitations peuvent quand même racheter un billet, bon, qui est entre 7 et 9 euros. Donc je dirais quelque part, Aujourd'hui, c'est quand même très très peu cher par rapport à ce qu'on propose, hein, entre les expos, les shows.
Et pour gagner une machine, potentiellement à plus de 12 000 euros.
L'année dernière, c'est une Z900.
Ouais, c'est le dire. La personne a choisi une Z900.
Ouais, une Z900, ouais. C'est un petit jeune qui venait d'avoir son permis. Et donc
alors qu'il y avait une Triumph, une T100, je crois, à côté, magnifique. Ouais,
les deux sont dans la nature.
T'en as eu une, Lequin ? De Z900.
Et puis une de Triumph aussi. Ouais.
Et Triumph aussi. Voilà. Alors il va y avoir le Rolf Circus Show.
Ouais, donc là c'est du stunt, mais du stunt, on va dire artistique. C'est souvent des shows qui sont mêlés avec de la danse. Et il nous fait également un show en nocturne avec des artifices, un show qui s'intitule Mad Max, pour ceux qui se souviennent un peu. Et donc ça va être super sympa. Ça, c'est samedi soir, aux alentours de 19h au niveau du programme.
Alors voilà, l'acrobatie moto et de la danse contemporaine.
Oui, tout à fait. Il est avec sa femme, donc ouais. Sa femme danse et lui tourne autour de sa femme avec sa moto.
Avec sa moto.
C'est à vitesse assez importante et c'est un très beau show.
Il n'y a que lui qui tourne autour de sa femme.
Il y a que...
vu comment il est godé,
c'est mieux.
Je le connais bien, donc il était venu sur mon... J'ai un autre salon, il était venu sur mon autre salon. C'est vraiment un superbe spectacle.
D'accord. Voilà, il va y avoir aussi le Ducati... Club Moto de France, c'est ça ?
Alors on a deux expos exceptionnels, on a les Ducati d'hier et d'aujourd'hui, donc là c'est effectivement le Ducati Club de France, et on a récemment pris une expo supplémentaire que l'on m'a fortement conseillé, notamment des personnes autour de cette table, sur les origines de la marque Harley-Davidson, et donc ça c'est une expo qu'on a rajoutée récemment pour contenter tout le monde.
Il faut citer Jean-Luc Gagnard quand même.
C'est Jean-Luc Gagnard, Voilà, je suis allé un petit peu sur les réseaux sociaux hein, par rapport à l'année dernière.
Ouais.
Et bon, j'ai noté difficulté d'accès, c'est des motards qui sont venus. Hein. Difficulté d'accès pour les piétons.
Ouais, alors on a résolu. Je pense qu'on a trouvé des solutions à tout. On a agrandi le parking moto. On a mis une navette de bus pour les gens qui viendraient en voiture. Bon, sachant qu'on aime bien que les gens viennent en moto quand même, c'est plutôt sympa. On a résolu les problèmes de restauration. On a doublé les restaurants. On a fait un food court, il y a des animations pour les enfants. Enfin bref, je pense que là, on devrait pas être trop mal par rapport à la première édition.
Les billets aussi qu'on peut acheter directement sur le site aussi, ça c'est
tout
ça
à fait. Je conseille vraiment.
C'est des coups de fil finalement.
Ouais, oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment d'arriver avec son billet, on rentre en deux minutes. Bon après, même sur place, il y a des QR codes s'il y avait la queue, donc on peut même acheter un billet sur place sans passer par la billetterie. Donc et on a 5 caisses. Quand l'année dernière, le samedi, on en avait 2. Donc je pense que ça devrait aller.
Ouais, enfin, j'espère parce qu'avec le soleil aujourd'hui
et qui
va y avoir aussi le week-end prochain. Et alors oui, il y a un moteur aussi qui est prévoyé, plus de points de restauration et plus d'activités. C'est ce que j'ai pu voir hein, sur les réseaux sociaux. Hein.
Alors en termes d'activités, on a un centre d'essai aussi super important. Ça, c'est un centre d'essai pour toutes les nouveautés moto. Entre 20 et 25 machines vont être à l'essai. Il suffit d'avoir son permis et de pouvoir souffler dans le ballon sans problème. Et donc les gens vont pouvoir essayer les nouveautés. Également une initiation Gymkhana, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et vous avez le circuit Massif Rider pour de la reprise en main et de la maniabilité moto. Donc il y a pas mal de choses en plus par rapport à l'année dernière.
Ouais, et en plus t'as doublé la surface d'exposition.
Ouais, on est sur 19 000 m² effectivement. Ouais.
Voilà, et un moteur belge demande s'il faut une vignette critère pour venir de Mons en Belgique à Douai.
Non, je pense qu'il n'y aura pas de souci.
Non, on est encore libre de ce côté-là, des critères. Tu sais ce que c'est, Marshall, des critères.
Exact.
Ouais, bon, ça nous emmerde bien, ça. Ouais, voilà, donc, alors les infos pratiques horaires, samedi,
alors,
samedi 15 de 10h.
10h-21h.
21h, nocturne.
Voilà, le dimanche de 10h à 18h, des billets entre 7 et 9 euros. Bon, je pense que gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, accompagné d'un adulte, donc ça c'est plutôt sympa également. Et surtout, moi je dirais, c'est vraiment la fête de la moto au nord de Paris.
Voilà,
venez tous.
Moi je dirais, c'est Lyonceau.
Le Lyonceau, c'est mon fils Benjamin qui sera là pour le salon.
C'est
qui,
le Lyonceau. Par rapport au salon de Lyon.
C'est un Lyonceau, mais on apprend toujours de Lyon et nous c'est notre objectif de nous améliorer tous les ans quoi.
Voilà, très bien. Et tu n'es pas venu les mains vides parce que tu offres des entrées gratos forcément. Tu peux les offres. Voilà aux auditeurs. Si vous voulez avoir une entrée pour ce salon de la moto qui aura lieu le week-end prochain, vous appelez, vous faites le 06 11 25 02 57. 06 11 25 02 57 et vous allez recevoir une entrée gratos pour ce deuxième salon de la moto que je rappelle qui aura lieu le week-end prochain à Douai à Expo Gaillan.
Gaillon Expo.
Gaillon Expo, oui. Voilà. Bon, on a, c'est bon. Moi, je pense tu veux que, rajouter quelque chose ?
Non, je pense que c'est bon. Moi, je suis très fier d'organiser ce salon et j'espère que tous les motards répondront présent. Ça va être magnifique.
Merci Fabrice. Allez, on passe un morceau de musique et on retrouve Laurent après. Voilà, et on part à Wescal. Bruno, tu nous entends ?
Oui, oui.
Bonjour Bruno, oui, alors Wescal, c'est donc le Vintage Moto Show aujourd'hui, hein ?
Oui, 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 et il fait très très beau, les motards sont de sortie, ils sont tous là, donc c'est chouette, et ça ferme ce soir à 18h, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un petit tour, c'est le moment.
Alors on peut y voir de belles et rares machines hein, du début du siècle à nos jours.
Oui, il y a à peu près une centaine de motos d'exposées. Alors, on a essayé de mettre l'attention un petit peu sur les japonaises des années 70. Donc, on a des Honda, des Yamaha, des Suzuki. Et puis après, toutes les classiques hein, des années 70, Triumph, Norton, DSA.
Super.
Et avec les vieux clous, on a des motos du début du siècle. Hein, Harley Davidson, 500 latéral dans son jus, Vélo 7, KSS. Enfin,
il y a du monde hein, aujourd'hui là,
oui,
à Wascal.
Oui, alors je pense que le temps y est pour quelque chose. Hein. Et puis voilà quoi, donc c'est vraiment chouette. On a du mal à passer dans les allées d'ailleurs.
Non,
donc,
c'est pas vrai.
Si, non.
Bon ben, on va venir voir ça après l'émission. Voilà. Oui, mais, alors, des stands animés hein, par de dynamiques associations du Nord.
Oui, donc il y a le Team Rabbit, le Team Pourquoi Pas Nous, le Caïman, les Vieux Clous, et puis bien sûr,
d'accord.
Organisateurs, voilà. Les Amis de la Moto.
Oui,
hein.
Les Amis de la Moto, bah, oui, bien sûr, voilà. Bon, on rappelle... Hein,
en plus, c'est la Journée de la Femme, donc on a fait un stand spécial.
C'est pas vrai.
Avec, avec les femmes donc, de notre association qui roulent en vieille moto. Enfin,
excellent.
En vieille moto,
excellent.
En Laverda, en Laverde, en Triumph, oui. Etc.
Ça, ouais, c'est de la, voilà. Ça, c'est de la femme, ça.
Ouais, bah oui, pourquoi... il faut les manier. Hein, faut les
pourquoi
manier.
Tu dis la vieille?
Pas les femmes, hein, les c'est... motos. Hein.
Bon, alors, il y a Guy qui pose la question. La question, c'était quoi, Guy?
Non, parce qu'il parle de jeunes motardes.
De jeunes motardes, oui.
Mais il parle de vieilles.
Ah oui, mais il y a motos, les motos.
Ah, c'est les motos.
Les vieilles motos.
C'est
vintage.
Oui. Après, si, on a.
Vintage.
Alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a des jeunes qui commencent à entrer un peu dans la vieille moto, là, qui restaure des petites 125 et tout ça. Et ça fait plaisir parce que donc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cheveux gris, mais il y a aussi des jeunes maintenant qui prennent la relève dans notre association. C'est chouette.
Ça, c'est super. Bon, il y a une bourse d'échange hein, pour les pièces rares.
On peut trouver ce qu'on
cherche depuis des années.
Des pièces de moto, voilà. des vieux cuirs, enfin de tout.
Et
de
bien
tout.
Sûr.
Il faut chiner, il faut retourner les caisses et puis voilà.
Et
on trouve son bonheur.
Et on peut boire un petit godet. Voilà.
Et voilà. Et donc, il y a un bar.
On sera content des pannes mémorables. Qu'on a eu sur la route.
Et etc.
Voilà, ouais, ben voilà.
Voilà, donc,
voilà. Très, donc, très bien. Donc c'est jusqu'à 18h hein, à Wascal.
Oui, tout à fait.
18h. Et c'est toujours 3€ l'entrée. C'est
voilà.
Modique, hein, 3
voilà.
euros. Voilà.
Ouais,
on rappelle la salle, c'est le Pierre Herman. Ou Herman.
C'est ça.
Hein,
dans le centre de Wascal.
Dans le centre de Wascal. Voilà.
Voilà.
Bon, ben on arrive tout de suite.
Suivez les motos, toutes les motos.
Guy, Bruno.
Voilà. Allez, à tout de suite.
À tout de suite. Super, voilà.
Salut.
Alors, Laurent, Guy, on va passer la parole à Laurent du motoclub des Étangs.
Des Étangs qui organise depuis, tu m'avais dit, une quarantaine d'années, Laurent.
Le premier trial a lieu en 82.
Ah, d'accord.
82, le premier trial. Ouais.
T'étais pas né?
J'étais né. Si, j'étais né, j'avais un an. Enfin, un peu jeune pour rouler quand même. Et la première course de cross, parce que le Motoclub des Étangs fait du cross aussi, la première côté, course de cross officielle, c'était en 81.
D'accord. Donc, c'est en date.
Donc, c'est le 5 et 6 avril. La course par elle-même, c'est le 6 avril. Donc, en licence FFM, ouvert tout ce qui est moto ancienne, donc surtout moto avant 85 trial. Et on fait également, ça fait 2 ans qu'on le fait maintenant ça, on fait une sorte de trial saucisse en fait, un entraînement qui est ouvert à tout le monde, pour tous ceux qui ont des licences UFOLEP et FFM, le samedi à partir de midi. Donc on va mettre un barbecue à disposition, chacun ramène
Ah, j'avais pas compris, un trial saucisse.
Trial saucisse,
c'est ça.
J'avais
bien compris ça,
c'est
un trial saucisse.
C'est convivial.
C'est voilà. Bizarre, j'ai jamais vu ça.
C'est ça, trial saucisse.
Ah oui, on mange à merguez après,
voilà,
après
le petit entraînement. On mange, on boit un coup, on s'entraîne tranquillement.
Ah oui, d'accord. Oui.
Voilà, et puis ça permet de partager autour des motos.
D'accord.
Et de s'entraîner un petit peu pour le dimanche également.
Et t'as pas connu Marshall, sinon il aurait amené du pot de chevelèche.
Non, j'ai pas connu, non, du tout, non.
Alors le trial c'est le championnat, c'est ça? Il y a un championnat. Hein,
un championnat, oui. C'est voilà, d'Île-de-France.
Nous, on est championnat d'Île-de-France, donc ça regroupe des courses autour de Paris. On a aussi une course en Normandie, à Romilly-sur-Andelle. Et donc après, Vingt, qui est le plus au nord.
Il y en a une dans la Somme. Elle ne fait plus?
Non. On a un club qui est assez gros à Ken, mais ils font surtout du trial moderne.
Ouais. Ah ouais, d'accord, à Ken.
Qui est un très gros club.
Combien? 10, 15 zones?
On va être à 12 zones à parcourir deux fois au minimum.
Moi, j'ai connu le trial avec l'étang. parce qu'il y avait des zones autour de l'étang.
Alors ça, c'est fini, malheureusement. Hein. On a été privé de ce qu'on appelle, nous, en trial, l'interzone. On a aussi l'usine nitrochimie qui avait explosé, une usine de fabrication de dynamite.
Ah, oui.
Donc on a été parqué...
À côté du circuit.
À côté du circuit.
Ça a explosé.
Ah oui, ça a explosé il y a une paire d'années. Ouais. Et donc, ils nous ont limité. C'est d'ailleurs dangereux, là, ouais. La seule fois avec le Covid où le trial n'a pas eu lieu, en fait. Et donc, on n'a plus accès à ça. Par contre, on a déjà 12 zones qui sont tout autour du terrain de crosse de Vingles. Et avec une équipe qui est formidable, qui débroussaille, qui coupe, qui entretient vraiment le terrain. Pour ça, je tiens à les remercier d'ailleurs. J'ai vraiment une équipe qui est incroyable là-dessus.
Ouais, ouais, parce qu'il faut des commissaires sur chaque zone.
Et il faut des commissaires. Il faut aussi des commissaires qui soient maintenant formés avec la FFM. Donc on lance des formations. On a des contrôleurs techniques. On est obligé d'avoir des commissaires techniques pour contrôler les motos. Avec contrôle de sonomètre, comme toutes les courses classiques. Hein,
maintenant. Donc c'est des motos de tout âge hein.
Motos d'avant 1985, qui sont conçues avant 1985.
Voilà, oui. Ouais,
ça reste le vintage. Oui. En fait, on commence à accepter des mono-amortisseurs, les mono-chocs. Oui. Hein, mais sinon, quasiment toutes les motos sont donc de 1950, comme la mienne qui est de 54, et jusqu'à 85 à peu près. Ouais.
Alors il y aura du parfum Drissa avec les Bultaco, les Montessa, les Ossa.
Alors oui, en effet. En plus, si maintenant on s'amuse à mettre de l'additif un petit peu odeur Drissa parce qu'on adore et les gens aiment retrouver l'odeur de l'ancien deux temps. Donc il y a du deux temps, il y a du quatre temps, il y a de la Bultaco. Donc on a des Ariel, il y a de la BSA, il y a de la moto confort comme la mienne. Il y a énormément de Fantic, de Honda TLR. Il y a de tout en fait. La TY qui a fait rêver pas mal de jeunes aussi à l'époque dans les années 80. Et on retrouve avec plaisir toutes ces vieilles motos.
En gros, il y a de l'odeur et du bruit.
Il y a du bruit, il y a un peu de bruit. On essaye quand même
C'est pas écolo, hein.
On essaye de faire attention. Non, on fait très attention. On a les tampons environnementaux en dessous des machines. On essaye vraiment de faire attention à ça pour rester dans les clous et puis que ça perdure tout simplement. Quoi.
Les Belges viennent aussi en force.
On a des Belges. Donc, on a ouvert notre course en zone européenne, en fait, avec la FFM. Donc, on est en zone européenne qui nous permet de prendre les licences IBF qui sont chez eux, c'est FMB, donc Fédération Moto Belge. Mmh. Et ça nous permet de les accueillir sur notre terrain. Ouais.
D'accord. Parce qu'en Belgique, trial à l'ancienne, eux, ils le disent autrement. Trial à.
C'est trial vintage.
Non, mais un truc. C'était un ancien mot, tu sais. Alors,
c'est un mot belge.
Ouais,
ça, je ne sais pas une fois.
Voilà, écoute.
Mais on roule beaucoup en Belgique. Hein. Bon. Moi, je roule ici à Pâques. On roule énormément en Belgique. J'ai un trial sur deux jours à Pâques avec un interzone qui est une trentaine de kilomètres dans les Ardennes, qui est très sympa. On roule aussi au Mont Ventoux, tout au sud de la France. On va rouler en championnat de France à Moirans, donc dans le Jura aussi. On essaie d'écumer pas mal de trial et puis on retrouve toujours les copains.
Bon. Ouais. Ok. Bon, on rappelle la date ouais.
Donc c'est le 5 et 6 avril. Et la course par elle-même, c'est le 6 avril. Oui. C'est ouvert à tout le monde, les spectateurs.
L'entrée c'est payant ?
C'est gratuit, tout est gratuit.
D'accord.
Il y a un bar à disposition, il y aura aussi une friterie et puis des chaises pour se
restaurer. On raconter aussi des histoires.
Voilà, on peut raconter les pannes parce qu'on en a aussi pas mal.
Des pannes de trialistes.
C'est ça. C'est presque les mêmes pales que les autres. Oui. C'est presque les mêmes pales.
Voilà. Et puis on resitue un petit peu l'endroit.
C'est un vin, c'est tout simple. Vous suivez le... Comment dirais-je, le parc Marcel Gabidu qui est à Vingles, vous a un grand étang, il y a une zone de loisirs avec, et après vous suivez le terrain de motocross qui est un petit peu sur les hauteurs du lac.
Très bien, merci.
Les zones, c'est du schiste, c'est quoi ?
C'est beaucoup de schiste, un petit peu de glaise aussi. Ouais,
ouais, ouais, ouais, ouais,
ça dépend du temps, mais on essaye de faire beaucoup sur le schiste, comme ça, si on a du mauvais temps, ça reste roulable sans trop de difficultés.
Il y avait une petite cascade, vous ne le faites plus ?
On ne fait plus ça, non. Non, on ne fait plus.
Il n'y a plus d'eau ?
Non, on évite de reprendre l'eau en fait, dans le ruisseau sur le côté par respect justement pour l'environnement.
Ah, ouais. C'est bien.
Tout simplement.
On va passer à un morceau de musique, Guy. Il y a Marshall qui veut reprendre un second départ.
Encore ?
Oui, il y en a pas mal. Lui, il est mordu des départs, des rallyes, des courses de sable et tout. Hein.
Il y avait déjà 45 minutes de retard à venir
voilà,
ici.
Et voilà. On lui donne une petite chance. Bon, après le morceau de musique. We're burning with the fever.
Ouais, c'est quoi, Marshall, ça, cette moto là, 450, non?
Ah, au bruit là.
Ouais, ouais, j'irais. Qu'est-ce que tu dirais quoi?
450 qui sort d'un virage un peu mou.
Non. Ah ouais, dis bon, il y a des qui disent le bruit de la moto, mais alors toi, en plus, tu dis il sort d'un virage un peu mou. Ok, d'accord. Bon, retour en France après cette première expérience du Dakar. Alors moi j'étais sur ton site, c'était J-11, mais non, il y a un mois et demi maintenant le Dakar.
C'est ça, un mois et demi.
Donc là tu as eu le temps de redescendre tout doucement, ouais, de cette aventure incroyable.
J'ai récupéré ma moto d'ailleurs parce qu'elle est revenue 3 semaines après, il a fallu la chercher à Barcelone et puis la récupérer. Alors quand elle est arrivée dans le garage, je me souvenais plus que je l'avais mise dans un état pareil. Elle était...
Ah oui.
Alors pas tue.
Ça t'a étonné?
Rien eu de cassé, mais on va dire que tout a mangé. Les pneus, on a passé 8 trains de pneus, les bimousses. Un petit peu de rangement et puis la moto en elle-même, mais pour l'instant je l'ai laissé comme ça pour l'exposer.
D'accord, bah donc on va la voir à Douai si j'ai bien compris.
Ouais bah du coup je serai là-bas pour...
Tu vas l'exposer moto, le week-end prochain.
Ouais, ça permet aux gens de l'extérieur de voir un peu, parce que c'est un milieu qui est assez fermé et je pense qu'on... toute l'année les gens regardent à la télé mais... On raconte pas d'aventure, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui...
Alors la télé, c'est marrant, on n'a pas cette... Quand on te lit là,
ouais.
On a vraiment... On se dit, mais c'est incroyable, le mec il est défoncé, c'est pas possible. Mais à la télé, on n'a pas cette impression de truc, c'est vraiment le... On a l'impression que c'est facile.
Ouais, parce qu'on s'affiche beaucoup facile. les premiers, ouais. Donc les premiers passent tout le temps, on parle que du trio.
Oui, c'est ça, en plus on parle que du premier. Hein, oui.
Donc
c'est,
les mecs, c'est dommage, ils sont super entraînés, donc ouais, ils finissent une journée, ça va.
Alors qu'il y a des mecs comme toi, vraiment, on peut faire 2 heures d'émission.
Mais par contre, derrière, ouais, ça trinque, faut le savoir. Hein. Quand on se croise dans le bivouac, en un regard avec les pilotes, on arrive à comprendre, on n'a même pas besoin de se parler, on arrive à savoir ce que l'un a vécu. C'est des journées compliquées, c'est 10 heures sur la moto.
Et tu dis intense et le sentiment d'avoir bel et bien réalisé un rêve d'enfant.
Ouais, quand j'ai passé l'arrivée, la sensation était partagée. En fait, je pense que je m'en suis rendu compte au moment du coup de la dernière étape et quand j'ai passé la cellule de chronométrage.
Dernière étape.
Ouais. Et là, j'étais soulagé.
Clap de fin.
Ouais. Soulagé d'avoir rempli le contrat, l'objectif. Et le plaisir, je l'ai eu après. Pas forcément quand on m'a remis la médaille, parce qu'en Arabie Saoudite, on le voit à la télé, le podium, ça a l'air d'être impressionnant, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. On est en plein dans le désert, il y a 4 mécanos qui sont là et on te remet la médaille. C'est après. Quand je suis rentré à la maison, il y avait 40 personnes qui m'attendaient à la maison.
Ah oui.
C'était la folie. Et après le touquet, du coup...
Ton père est fier de toi.
Ouais,
malgré qu'il n'était pas pour quand même que tu fasses le Dakar.
Non, je pense que j'ai stressé un petit peu.
Il a stressé.
Toute la famille.
Il t'a suivi ou pas? Non, il était...
Ouais, à fond. Bah, alors, c'est une encyclopédie, il garde tout. Donc là, tous les jours, je suis rentré, il y avait tout un tableau avec le reporting de toutes les journées. Non, c'était assez dingue.
Ok. Donc ça fait 7700 km ce Dakar. Hein.
En
12 jours. Hein.
Pour 5002 de spécial.
Eh ben, écoute, si on a encore des questions à te poser, ce sera le week-end prochain à Douai.
Avec plaisir.
Merci Marshall, c'est super, hein, vraiment une bonne envie de te lire là sur Facebook, j'ai été scotché hier. Fabrice, on rappelle, hein, donc le week-end prochain, c'est le Lionceau à Douai.
Le Lionceau de Douai, 15-16 mars, et, voilà, ça va être une fête de la moto incroyable, 500 machines exposées, une moto à gagner. Marshall qui sera là et voilà, venez tous, ça va être génial.
Ouais, ça va être super.
Et Kikaku, il sera là.
Et puis alors aussi, c'est 9 € pour la journée, 12 pour le week-end. Hein. Bon, c'est pas très cher encore.
11 pour le week-end.
Voilà, très bien.
Il y a des billets domiciliés. Et je rappelle que gratuit moins de 12 ans.
Voilà. Et si on vous offre des entrées, hein, vous appelez le 06 11 25 02 57. Je répète, 06 11 25 02 57. Dépêchez-vous parce que on en a qu'une petite dizaine. Laurent, donc on rappelle la date du trial. Oui, prends le micro.
Donc le 5 et 6 avril, la course est le 6 avril.
Motoclub des Étangs.
Motoclub des Étangs sur la zone de loisirs de Vingles.
De Vingles, voilà, merci. Bah, l'émission se termine. Alors, merci Marshall. Alors, je sais pas, on peut peut-être se refaire une émission, non? Parce que
tu nous as
un peu donné.
J'ai raconté que la moitié. On va dire
oui, et l'eau à la bouche. Il y a de l'aventure là-dedans.
Il y a plein d'anecdotes, hein. C'est clair, mais avec plaisir, carrément.
Ouais, voilà.
Il fera l'émission.
On refera une émission encore dimanche prochain.
Voilà. Allez,
une petite séquence. Laurent, nous, on se retrouve au mois d'avril, hein, pour le trial.
Avec plaisir, oui.
Et puis pour l'offre froide et le tout-terrain, ce sera le mois prochain.
Okay.
Le deuxième week-end du deuxième dimanche du mois. Voilà.
Avec notre G.
Et on remercie notre technicien, Marshall, il s'appelle Laurent.
Okay. Merci Laurent.
Salut Laurent. Passez un bon dimanche.
Merci.